À l'occasion du salon d'édition indépendante Offprint 2023, DU réalise une série d'entretiens autour de l'édition contemporaine en partenariat avec le CNAP, Centre National des Arts Plastiques. Grégory Chatonsky, artiste, et Tarek Issaoui de Rose Édition autour du livre La machine sans tête. Bonjour Grégory et Tarek, comment
bonjour.
Allez-vous?
Bonjour, très bien.
Pas pire.
Pas pire.
Avant qu'on en vienne tout de suite au livre, est-ce qu'on peut contextualiser un peu la maison d'édition que tu représentes aujourd'hui, Tarek, donc Rose, avec
deux
R Rose.
R Rose.
Que tu co-crées en 2014 à Paris. Vous éditez exclusivement des livres d'artistes sur l'art digital. Aujourd'hui, 26 livres ont été publiés. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui est, il me semble, autogéré, non, depuis 9 ans?
C'est ça, exactement. En fait, on l'a créé parce qu'il y avait un manque. On l'a créé parce que moi, je suis acheteur de livres, je suis lecteur de livres d'art, livres d'artistes. Et j'ai trouvé qu'il y avait un manque dans cet espace entre l'art, disons, immatériel, l'art de prosocessus, peut-être algorithmique ou autre, et le livre. Et donc, le fait que les processus de création soient immatériels ne signifiait pas forcément qu'il ne pouvait pas en fait, y avoir une manifestation sous une forme de livre. Quoi. Et donc c'est moi qui suis allé chercher des artistes initialement. Je suis allé les voir et puis leur dire vous avez une carte absolument blanche pour faire ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez en termes de format, impression, et puis libre à vous. Et ça s'est fait sur cette base-là. Le premier livre, ça a été avec Clément Valla, artiste américain. Et le fait que ce livre soit bon initialement fait, que ça a pu être vu par d'autres artistes aussi. Et c'est parti. Voilà.
Et au début, d'imprimer à combien d'exemplaires à peu près les livres?
Très très peu. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la micro-édition. Donc entre 100 et les plus gros tirages, c'est 500 grâce au CNAP. Mmh. Mais on est plutôt, de 100 à 300. Et on auto-diffuse. Donc ça veut dire qu'on va à la poste, qu'on va voir les libraires, que l'on essaie de. Voilà, qu'on sait presque le nom de chaque personne qui achète. Donc il y a un lien direct avec qui achète et qui lit.
Aujourd'hui, vous présentez le troisième livre avec la Eros édition de Grégory Chatonsky. Le premier, c'était quelle édition? Est-ce que vous pouvez parler du début de votre collaboration, en tout cas?
Ouais, je le connaissais, je connaissais la maison d'édition par Clément, en fin de compte. Donc j'ai pris contact avec cette maison d'édition, sachant qu'ils faisaient des projets particuliers et qu'ils étaient dans l'optique de cette édition digitale, post-internet, post-digitale, en tout cas à un moment donné, quoi, cette espèce de truc qui s'est passé pas tellement en France, mais à l'étranger. Et je crois que le premier livre, ça a été une adaptation des trois manifestes de Gustav Metzger sur l'autodestruction. Donc avec un livre qui s'appelait Autodestructivity, qui était une espèce d'adaptation visuelle de ces manifestes de Gustav Metzger. Parce que, en fin de compte, j'ai pu assez tôt générer des images. Maintenant, c'est très, très courant, mais avec des réseaux récursifs de neurones, parce que je faisais partie du programme de bêta-testeur d'OpenAI, de DALI, en fin de compte. Donc, j'ai eu accès dès 2020, alors que personne n'y avait accès. Et quand j'ai vu apparaître cette chose-là, artistiquement, ça m'a. L'émergence d'un nouveau réalisme, quoi. C'est même un moment extrêmement émouvant. On voit qu'une fois ça dans sa vie comme artiste. Et l'émergence d'un réalisme d'une importance, à mon avis, aussi profonde que l'invention du photoréalisme au XIXe siècle. Et donc tout de suite, je pense à Gustav Metzger, pour toutes les raisons qu'on connaît, quoi, parce que les trois manifestes sont des œuvres, pour moi, sont exemplaires de ce que doit être un manifeste et de ce que peut être un manifeste aujourd'hui, qui prend en compte en même temps la question de la technique et en même temps la question de la destruction et de l'extinction. Donc ça a été, je crois, la première tentative. Et puis en 2020, j'avais... lors du confinement, pour surcharger encore plus les éditeurs, j'avais écrit un roman que j'avais coécrit avec GPT-2 en open source, qui était donc l'ancêtre de ChatGPT, et qui était un roman de science-fiction, qui s'appelle Interne, où c'était vraiment un travail de collaboration avec l'IA. Et donc, on s'est attelé à cette tâche. Donc, je pense que pour la maison d'édition, c'était une nouvelle tâche que de publié des romans inclassables, un peu dans une littérature expérimentale qui a un peu disparu aujourd'hui, mais qui a eu ses grandes heures de gloire au XXe siècle. Et donc, avec la relecture, qu'est-ce que c'est qu'un roman, comment faire, quel sens de faire un roman aujourd'hui, et puis qu'est-ce que c'est que ce roman qui a été, à ma connaissance, le premier roman en langue française publié et coécrit avec une intelligence artificielle, et qui pose plein de problèmes au lecteur.
Ah oui, parce que c'est un texte assez brutal aussi. C'est un texte qui a ses moments de grâce, mais qui parfois aussi a ses moments de lourdeur, de répétition. Et en tant qu'auteur, disons qu'il y avait une ligne fine entre... donc, est-ce qu'il faut qu'on polisse ce caillou-là de jusqu'au bout, ou est-ce qu'on laisse toutes ces aspérités de texte-là ? Et in fine, je pense qu'on est sur une ligne intermédiaire où le livre se lit très bien, mais en même temps, on saisit tout de suite qu'on est ailleurs. On saisit tout de suite qu'il y a une scansion, une phrase qui n'est pas la même que celle que l'on a pu lire. Et je pense que c'est aussi lié au fait que c'était le GPT-2, c'était pas encore le GPT 5, 6, 7, 8 qui écrira merveilleusement bien. Il y a encore cette phase-là de awkwardness, de étrangeté, même si voilà, bien. Non, disons.
Justement, ce qui est très très drôle, c'est que depuis GPT 3.5 et 4, on peut plus écrire de fiction avec. C'est plus possible. Par contre, on peut écrire des réunions, des PowerPoint, etc. Mais par contre, effectivement, le côté halluciné de la fiction a été perdu dans l'alignement du réseau récursif de neurones.
C'était quelle année, GPT-2 ?
Moi, je l'ai écrit en 2020, donc ça venait de sortir. Et donc, avec un apprentissage spécifique, etc. Donc, c'est déjà un objet archéologique, finalement. C'est quelque chose qui n'existe plus et qui n'existera plus.
Juste avant qu'on en vienne vraiment à cette dernière édition, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail, notamment du groupe dont tu faisais partie avec Incident, par exemple,
qui est peut-être
un peu... Ouais, ça nous ramène loin, mais en même temps, c'est le début aussi de ton intérêt pour les flux et de la suite de ton travail.
Ouais, très très rapidement, moi, je découvre le web en 94-95 au Centre Pompidou, parce que je faisais un stage à la revue Traverse, la revue du centre de création industrielle qui a donné les matériaux, etc. Et donc, il y avait deux accès à Internet en France à l'époque. Il y avait l'IRCAM et il y avait l'INRIA. Donc, j'ai accès au web grâce à l'IRCAM. Je fais le tour du web en, 15 minutes. Je vois tout en 15 minutes. Et je me dis, c'est à ce moment-là, 94-95, je me dis, ça va changer beaucoup de choses. J'en parle aux gens, ils disent, mais non, mais le Minitel, c'est beaucoup mieux, parce qu'on était tout de même sur ce truc-là. Hein. C'était l'époque Minitel, TGV et Top 50. Et donc, je monte ce collectif sans manifeste avec des gens des Beaux-Arts de Paris en 95-96, à Paris 1 et aux Beaux-Arts de Paris, qui est globalement la première structure collective de NetArt en France, où on a fait des choses assez particulières, beaucoup autour de la fiction, et où pendant 10-15 ans, on a travaillé ensemble en réseau, mais aussi on a partagé un atelier ensemble, physique, quoi, dans le 11e. Et donc, qui a été un moment très important, très minoritaire, où après, effectivement, c'est devenu très majoritaire, où le monde de l'art contemporain nous regardait un peu comme des geeks. Et puis maintenant, tout le monde est sur Internet et en fait son miel, on va dire. Et donc, ça a été un moment important où les premiers projets de livres, et je pense que dans Incident, on était assez obsédés par le livre parce que c'était un peu notre ancêtre. Et on essayait de faire des livres un peu différents, c'est-à-dire, par exemple, en 2006, je pense je fais un livre qui s'appelle Le Registre, où je vais récupérer des sentiments sur Twitter. Et je fais un livre, un logiciel qui automatiquement fait un fichier PDF toutes les heures avec 100 sentiments publiés sur Internet. Et donc, ça fait 24 livres par jour. Voilà, toute cette espèce d'affectivité pulsionnelle sur le web devient à un moment une bibliothèque et figée dans la bibliothèque. Et donc déjà, le livre nous semblait quelque chose qui rentrait en dialogue, en conversation avec ce qu'on essayait de faire sur le web. Et en différence, c'était notre différentiel, voilà. Si on parle de calcul différentiel, c'était notre différentiel à nous. Et donc, on a toujours dialogué avec le livre en essayant de le briser, en fin de compte.
Donc aujourd'hui, vous publiez La Machine sans tête, dont l'origine est le livre de Max Ernst, La Femme sans tête. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette histoire ? Ce livre, tu l'as eu très tôt dans les mains, de Max Ernst, visiblement, tu l'as gardé longtemps en tête.
Oui, en fin de compte, ma grand-mère, Janine, me l'a offert quand j'avais 9 ans.
Ça, j'ai un peu de mal à y croire, mais bon, ok.
Et pourtant, elle m'a offert quand je l'avais 9 ans, elle m'a offert à 10 ans le gros catalogue monographique de Max Ernst. Et donc, ça marque un peu. Ça marque parce que tout simplement, c'était là où je vivais quand j'avais 9 ans. C'était ce que je lisais, en fin de compte. C'était les livres que je lisais.
Et les images dans lesquelles tu te projetais aussi.
Les images. Max Ernst, pour moi, c'est mon enfance, quoi. C'était là où...
Est-ce qu'on peut resituer, juste pour les auditeurs, auditrices, un peu le travail de Max Ernst? Enfin, en tout cas,
globalement,
celui-là...
Globalement, qui va du dadaïsme au surréalisme. Donc, c'est un drôle de personnage qui invente aussi... en tout cas, qui réactualise le dripping, qui a une pratique très protéiforme, plastique, sculpturale. Et qui surtout crée tout au long de sa vie une fiction autour de la mort de sa sœur et d'oiseaux. Et qui va créer donc cette réalité alternative dans laquelle il va vivre, qui est ce monde hanté par le plop, qui est un oiseau. Et ce livre, donc, c'est un roman collage de 1929, très beau collage, avec des textes en dessous, très poétiques. Et enfin, je me demande, mais qu'est-ce qui vient en premier ? Est-ce que c'est le texte ou l'image ? Voilà, je ne sais pas qui écrit l'autre. Qui écrit l'autre ? Et c'est une question qui va m'obséder, cette relation entre le texte et l'image. Et après, j'en comprendrai bien des années plus tard les assises historiques.
Et c'est là que se joue d'ailleurs aussi une partie du travail dans ce livre, la relation entre texte et image.
Oui,
Parce que j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans l'épisode précédent, mais comment le texte aussi peut influencer l'image ? Comment la légende en fait peut d'un coup influencer la perception aussi du spectateur.
Alors là, c'est
plus qu'influencer parce qu'elle
est
nourrie.
Ouais, non, mais clairement, c'est pour ça. Donc qu'est-ce qui se passe en fait là?
Alors, c'est un changement d'étape radical, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la relation entre le texte et l'image de manière herméneutique, c'est-à-dire au niveau de l'interprétation du regardeur, du lecteur, qui est la question classique de l'interprétation. On est sur des méthodes de production. Et ça, c'est tout à fait radical et nouveau, c'est-à-dire qu'à partir du texte, on navigue dans un espace statistique qui va produire une image qui ne préexiste pas et qui est une image de possibilité. Ce qui se passe, c'est que...
À partir d'images existantes.
Non, à partir
nourri
de statistiques, ce qu'on appelle un espace latent, c'est un espace de statistiques qui a été renseigné, nourri par des images ou par des textes ou par d'autres choses.
Mais la première image de chaque image que l'on voit là, la première image, le premier point de départ de l'algorithme, c'est une image aléatoire de pixels. Vous prenez 3000 par 5000 pixels aléatoires. Et petit à petit, par itération, elle va vous trouver l'image qui se rapprocherait le plus du prompt, c'est-à-dire le texte, voilà.
Et donc, ce prompt tout de suite, ce fameux prompt que maintenant on connaît tous, quoi. Mais moi, je fais ces images en 2021, je pense. Ce prompt, c'est un texte qui produit une image, qui, dans l'histoire de la représentation et de la théologie et de la représentation religieuse, est, quoi, c'est un coup de tonnerre dans notre histoire occidentale. Et donc, à partir de là, je mets les textes de Max Ernst, à supposer qu'ils aient été ceux de Max Ernst dans l'original, dans le roman dans La Femme sans tête. Je mets ces textes et ça produit des images. Et là, je découvre que ces images, progressivement, les unes après les autres, en les sélectionnant, elles commencent d'image en image à raconter une histoire. C'est pas des images séparées.
Et
elles racontent un monde.
Comment tu les sélectionnes, ces images? Parce que
intuitivement. C'est-à-dire que très simplement, il y a un prompt, il y a plusieurs générations, et quand une génération d'images m'intéresse, je la sélectionne et je poursuis le chemin et je creuse. Donc c'est un peu comme un Minecraft, l'espace latent, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on est comme une taupe, c'est la vieille taupe marxienne, et donc on découvre cet espace de possibilités et on creuse jusqu'à arriver à faire des images qui ne sont pas des images, qui sont des suites d'images, qui sont des actualisations de possibilités, donc c'est des images du possible. Ça, c'est vraiment aussi un coup de tonnerre culturel. Et ça raconte une histoire. Et brutalement, je dirais, Max Ernst se tourne vers un univers beaucoup plus cinématographique, avec d'autres formes de perversité dans le livre.
Et quand tu choisis ces images, t'es pas influencé par le moment où ça se passe, justement, parce que tu t'as pas fait ce livre en un jour. Donc est-ce que t'as été influencé aussi par, je sais pas, ta propre vie, ton regard, il bouge aussi et il est influencé par ce qui se passe autour?
Je dirais peut-être, mais ça c'est incalculable. Par contre, ce que je sais, c'est que j'influence ces logiciels, parce que je les guide un peu avec...
Sur le style, non ?
Sur le style, sur certains paramètres. Donc comme un prompt, c'est un peu comme une canne d'aveugle, le bout d'une canne d'aveugle où on va toucher cet espace statistique fou et inhumain. Et d'autre part, j'influence le logiciel et le logiciel influence ma propre capacité d'imagination. C'est vraiment une capacité, une faculté transcendantale. Hein. On est dans ces questions-là. Et ça va me modifier, ça va m'aliéner. Donc c'est une aliénation réciproque. Et moi, ce que j'ai toujours cherché, même avant ces questions de réseau récursif de neurones que j'ai commencé à explorer en 2009, c'est à m'aliéner et à aliéner, c'est-à-dire à devenir un alien en fin de compte. Pas du tout à exprimer ma vie ou ma vision personnelle qui n'a pas plus de légitimité à être exprimée que n'importe qui d'autre. Quoi. J'ai pas de légitimité à ça. Mais par contre, ce que j'ai appris au fil de 30 années de pratique, c'est à aliéner et à être aliéné et à expérimenter cette aliénation le plus radicalement possible.
Et donc cette suite d'images qui est présentée ici, c'est la machine qui l'a décidé ou c'est...
C'est le texte.
C'est le texte original.
Ça, okay. Donc, t'as suivi le texte original.
Non, bah parce qu'on
en a pas
comme
parlé.
Une Bible,
hein. On en
comme
a pas
une
parlé.
Bible.
Ouais. Donc, t'as repris le texte de Max Ernst et tu l'as.
Alors, j'ai fait du copier-coller. Moi, j'aime beaucoup copier et coller. Donc, j'ai fait du copier-coller. J'ai mis ça dans la version bêta-test de Dali. C'était la toute première version de Dali où c'était très drôle. On avait l'interdiction de représentation de nudité, de violence, de révolution, de manifestation. On devait signer un papier comme quoi on n'avait pas le droit de représenter ça. Au tout début, c'était très très drôle. On était vraiment dans un iconoclasme fou, alors que bon, ça produit plein d'images.
Et je crois qu'il n'y avait pas de visage.
Et il n'y avait pas de visage. On n'avait pas le droit, si, parce que leur peur, c'était que par hasard, quelqu'un d'existant apparaisse et qu'il fasse un procès. Ça, c'était leur terreur. Et donc, j'ai généré ces images en suivant exactement le texte de Max Ernst, qui est un ensemble de phrases un peu poétiques. Et l'impressionnant, c'est que ça produisait des images qui étaient cohérentes au niveau optique, au niveau de l'éclairage, et qui n'étaient pas des collages et des post-production d'images préexistantes, mais qui étaient l'actualisation d'images possibles. Et donc, brutalement, par exemple, « Ce singe est-il catholique ?» demande Marc Ernst sur une des planches. Et le réseau récursif de neurones met un singe dans une cage qui est en train de lire un livre. Et bien sûr, il ne comprend rien à ce texte. Mais nous, êtres humains, regardant cette image, nous trouvons ça génial. Nous affectons de la génialité à cette image, alors que bien sûr, dans l'intelligence artificielle, il n'y a rien d'autre que de l'induction et que quelque chose d'extrêmement sans compréhension. C'est idiot, mais au beau sens du terme. C'est de la belle idiotie.
Qui est l'auteur, enfin, en tout cas au niveau de la question de l'auteur?
Bonne question.
J'avoue que c'est une question auquel je n'ai pas envie de répondre.
Ouais.
Sachant que tu as mis ton nom sur la couve.
Oui, mais ce n'est que la couverture.
Comment on dit ? Les outils que tu utilises pour produire ces images posent la question aussi
oui, bien
quelque
sûr.
Part de l'auteur.
Bon, après, comme j'essaye d'être aliéné et d'aliéné, je pourrais difficilement me revendiquer. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le mot auteur. Ce qu'il y a, c'est que si c'est l'auteur avant les années 50, globalement, non, je ne suis pas auteur, il n'y a pas d'auteur, etc. Je suis l'occasion d'autre chose. L'autorat, c'est un truc partagé. Par contre, je le signe parce qu'à un moment, j'opère un choix. J'opère des choix et qui ne sont pas des choix de post-production, qui sont vraiment des choix d'exploration dans l'espace latent, ce fameux espace statistique qui réunit potentiellement toutes les images et tous les textes que les êtres humains ont produits depuis qu'il y a des archives. Et donc, en opérant ces choix, effectivement, ce qu'il y a, c'est que progressivement, il y a quelque chose de singulier qui émerge. Et je pense que quand on regarde les images, par rapport à des images très standardisées de Midjourney, par exemple, qu'on peut tous faire, hein, on s'est tous amusés à faire ça, il y a quelque chose qui est singulier et qui est cohérent par rapport aux images que je faisais auparavant. Donc très concrètement, après je ne sais pas, j'ai du mal à recomposer dans l'auteur que je suis la causalité. Voilà. Et en tout cas, j'abandonne depuis fort longtemps l'idée que je suis la cause première, qui a une intériorité, qui imprime sa volonté sur une extériorité. Ça fait longtemps que c'est terminé. Il est temps de s'en débarrasser. Et c'est bizarre qu'à l'occasion de l'intelligence artificielle, les masses médias reviennent avec des conceptions de l'art totalement réactionnaires à des conceptions de l'auteur et même de l'artiste qu'on a abandonné depuis 1860. C'est infernal.
Ça fait évoluer quelque part le titre du livre qui a été l'origine de ce projet. Tu peux nous en parler justement de passer de la femme à la machine ?
Bah, ça tombait bien parce que la femme sans tête, donc ça s'écrit pas comme ça se prononce, ou ça se prononce comme pas comme ça s'écrit, c'est-à-dire que 100 c'est le chiffre 100 et ça se prononce comme s'il n'y en avait pas. Et c'est exactement ça une intelligence artificielle, ça a 100 têtes, c'est-à-dire c'est l'archive de millions et de millions d'êtres humains qui ont écrit des textes, qui ont fait des images. Donc ça a toutes nos têtes, et c'est sans tête parce que c'est acéphale. Et donc c'est cette vieille question de l'acéphalie, de l'acéphalie dans l'art, quoi, de Bataille, de Klosowski, etc. Et donc je trouvais que c'était un heureux hasard de pouvoir échanger l'un avec l'autre et que ça garde une certaine actualité.
Je ne sais plus si c'est dans le texte qui accompagne l'ouvrage de Béatrice Joyeux-Prunel que j'ai lu ça, mais de cette phrase qui dit que le fait qu'une image existe fait d'elle une image réelle. Enfin, comment tu le traduis par rapport à ton travail et...
C'est que tout simplement, de la manière la plus simple du monde, quand une image s'inscrit sur un support matériel, elle devient par définition réelle.
Et le support matériel, on parle de livre ou on parle de tout support qui fait exister une image ?
Écran, disque dur, data center. Et il n'y a que des images matérielles, à mon sens. Il n'y a que des images matérielles. Et comme elles sont matérielles, elles sont réelles. Et le fait d'exiger des images une autre matérialité que celle qu'elles ont est injuste.
D'ailleurs, pourquoi ce choix de présenter ces images dans une édition imprimée, donc qui peut avoir l'air d'être définitive, en tout cas, d'arrêter un processus? Qu'est-ce que...
Ça revient à nous demander pourquoi on fait des livres aussi.
Non, mais c'est vraiment une question que je me pose, c'est produit à travers... un processus de production qui n'est pas forcément celui... Voilà, ce n'est pas une photographie, c'est pas... l'objet livre, il intervient pour...
Le livre, je dirais qu'il a quand même plusieurs fonctions. Une qui est toute bête, c'est qu'il est durable, en fait, il conserve. C'est-à-dire que les fichiers, si on essaie... Vous savez, Warhol a fait des essais... Périmémentation sur Apple, mais on n'arrivait même pas à retrouver les fichiers. Il a fallu des gens de la NASA pour extraire ça. Donc le livre, lui, il peut même avoir 500 ans ou plus. Donc il sera là. Enfin, il sera là. Voilà, on peut espérer. Et donc il est durable. Ce qui fait qu'il archive. Il archive, il est transportable, on peut le passer, on peut le prêter, on peut le mettre dans un musée, on peut le mettre dans une bibliothèque, il n'est pas cher.
L'abîmer aussi un peu. Enfin, du coup, aussi. En manipulant, ça veut dire qu'il se transforme aussi à travers le
oui,
temps.
Oui, bon, ça, il peut acquérir peut-être une aura comme ça, effectivement, un livre un peu vieux, un peu ancien, un peu rare, mais bon. Mais voilà, donc c'est dans le monde de l'économie que l'on a là aujourd'hui, qui est de dire quand il s'agit de monétiser une chose, de la marchander, de la machin, le livre est encore ce qui se fait de plus light, quoi, de plus souple et de plus...
Puis, en reprenant un peu aussi le plan du livre original, l'idée, c'était de faire une V2, c'est-à-dire de reprendre un document historique, La femme sans tête, et d'en faire une deuxième version, c'est-à-dire de commencer à produire des documents contrefactuels. Et pour moi, c'est une donnée fondamentale, c'est qu'on rentre dans une régurgitation du passé qui n'est plus de la post-production. On sent tous qu'on est... Et puis toutes les institutions culturelles, tous les musées sont complètement envahis par leurs archives. Nous-mêmes, notre système attentionnel est totalement saturé. On est tous fatigués, on ne s'en sort pas, quoi. Et que la possibilité, à partir de documents passés, de créer de l'avenir, c'est-à-dire des versions contrefactuelles, des bonnes fake news, ça me semblait important que ça prenne la forme d'un livre comme l'original et qu'on reste dans cette logique du simulacre. Donc, c'est un beau simulacre, un livre, tout de même. C'est un simulacre intéressant qui garde son actualité.
Même si on n'a pas fait de fac similé. En fait, on a fait ce choix d'une forme qui n'est pas celle du livre original.
Non, c'est comme une suite.
C'est plutôt...
Voilà. C'est une fanfiction, en fait.
Ouais. tout à l'heure, en off, on parlait un peu de la question du livre de trop. Tu me disais, oui, il y a toujours cette question du livre de trop.
Ouais, et puis de l'œuvre de trop, hein, comme artiste aussi. Hein, déjà, il y en a tellement. Et ça pose cette question de poursuivre un système de production qui a été industriel, qui est hérité du 19e siècle, où on est obligé, on le sait bien dans l'édition, de produire beaucoup pour avoir des économies d'échelle, puisque le premier exemplaire coûte cher. Et puis on voit bien, quand on publie des livres, quand on imprime des livres, on passe de 100 à 200 à 300 exemplaires et les prix s'effondrent progressivement. Les prix baissent. Enfin, de moins en moins, mais ça baisse tout de même. Et donc, ça entraîne tout de même le fait qu'il faut produire beaucoup et il faut que beaucoup de personnes achètent le même objet. Et donc, ça implique un certain type de désir. Le résultat des courses, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans les cartons et que ça pose un vrai problème. Donc, je pense qu'on est tous pris par ce doute. Est-ce qu'on continue à faire des livres et des œuvres parce qu'on commémore quelque chose qui a dû exister à une époque, ou est-ce que ça garde encore une actualité dans le dispositif actuel? On est en train d'y réfléchir pour voir si il y a pas d'autre modalité et si on peut pas dépasser tout ça.
Même si je pense que le fait que l'on achète le même livre fait qu'on partage, que l'on partage une culture. Si effectivement, comme tu le pressens, les livres vont être de plus en plus unicisés, uniques. J'aurai le livre qu'il me faut pour moi, j'aurai le film qu'il me faut pour moi, j'aurai la peinture qu'il me faut pour moi. Est-ce qu'on va partager les chefs-d'œuvre? Et au fond, est-ce que notre culture n'a pas été aussi construite sur la base du fait qu'on s'est entendu sur le fait de dire que cette toile-là, que ce livre-là, c'était des piliers?
Tout à fait, mais tu vois bien le temps que tu utilises, qui n'est pas le temps du présent, pour désigner ce phénomène de partage du commun. Ça a existé, hein, je suis totalement d'accord. Je ne suis pas sûr qu'on soit encore dans cette période-là et que la différence entre la haute culture et la basse culture, que bon, tu connais tout ça par cœur, et que la question du commun culturel se pose de la même façon. Et puis, ce n'est pas nécessairement produire des objets qui sont adaptés à ma petite personne, à supposer que je sois quoi que ce soit. C'est plutôt produire quelque chose qui est impartageable parce que je suis le seul à l'avoir et que si je veux le partager, je suis obligé de donner.
Ou vendre.
Donner.
Oui, je sais bien, mais quand on parle, tu sais, des NFT ou autres qui sont un peu le même type de principe, c'est-à-dire même base de création, même algorithme à la base, sauf que chaque personne a son NFT unique. Donc NFT, c'est non fongible, donc c'est unique. Et donc il y a cette illusion de c'est l'œuvre unique. Et en plus, comme c'est des grandes séries, ça s'achète et ça se vend. Et on sait très bien que l'unicité dans un cadre marchand, c'est une prime, c'est un plus. Il y a aussi cette piste-là.
Alors, et on peut, pour l'industrie du livre, dire tout de même que l'industrie du livre est fondée sur la révolution industrielle et que maintenant, il y a un autre type de révolution industrielle qui permet de produire des objets uniques et qu'à partir de là, ça pose vraiment une question dans l'économie qui est qu'avant, le caractère unique de quelque chose donnait sa valeur, mais quand cette chose est unique mais appartient à une série infinie, la valeur s'effondre par voie de conséquence. Et on est dans ce trouble-là de mode de production avec de nouveaux registres de fiction et avec ce fameux espace latent qui est, je crois, l'espace dans lequel nous sommes en train de rentrer progressivement les uns et les autres sans toujours le savoir.
C'est quoi la suite, Grégory? Est-ce qu'il y a un autre projet d'édition dans ton travail? Quel est le futur?
Ouais, d'édition, je ne sais pas. On verra, mais en tout cas, d'écriture, en tout cas, je suis en train de finir un livre qui s'appelle Technographie, qui est une autobiographie uniquement du point de vue de la technique, des techniques que j'ai rencontrées. Parce que je pense qu'on a toujours tendance à voir les techniques comme des instruments, comme des outils, alors qu'on les rencontre à un moment donné. Et moi, mon sentiment d'existence, ma réflexivité, elle est liée à la rencontre et à l'encontre de ces dispositifs techniques. Je suis en train de faire le deuxième volet d'interne, qui va s'appeler Logistique, et d'un petit manifeste sur l'imagination artificielle.
Non, mais tease-nous en deux ou trois phases à ce manifeste.
Qui est une tentative de passer d'abord de l'intelligence à la question de l'imagination, hein, parce que qui me semble une question plus intéressante, et de montrer que le monde dans lequel on est en train de rentrer avec un horizon d'extinction qu'il ne faut jamais oublier, qui est tout de même notre avant-plan et notre arrière-plan, qu'on l'occupe ou pas, il est présent et il rend tout lisible. Enfin, c'est une grille de lecture actuelle. Et bien qu'on est en train d'industrialiser l'imagination au sens très simple, pas de l'imaginaire, hein, au sens de la production des images. Et qu'à partir de là, ça, dans le champ de l'art, dans le champ de la société, ça va avoir un certain nombre d'influences qu'on peut coordonner avec d'autres phénomènes, le complotisme, les fake news, le consumérisme à son extrême pointe, à son extrême fin, et d'essayer d'un peu théoriser ça de manière un peu solide tout de même.
Et Tarek, la suite pour... est-ce qu'il y a des projets d'édition en cours
En fait, je me pose un peu des questions sur la suite. Moi-même, hélas, toi, je tease à la fin, mais c'est parce que je me demande si le principe actif de Rose Édition, c'était d'accompagner ce mouvement de l'art génératif et algorithmique, et que je me demande si on n'arrive pas à une fin de cycle. C'est-à-dire que tout cet effet waouh de émerveillement devant les capacités de la technologie, devant les capacités créatives et tout ça, je me pose un petit peu des questions sur quelle sera la prochaine étape, parce que je pense qu'on arrive à une fin d'étape et que j'ai pas encore pu voir de quoi seront faites les œuvres d'art de ce prochain cycle-là. Par qui seront faites ces œuvres d'art, quelle forme elles vont prendre, lesquelles seront intéressantes. Et donc là, je rentre plutôt dans une pause et quitte même à voir s'il va falloir faire des livres ou autre chose, ou des livres sous une autre forme. Mmh.
Sachant que dans Rose Édition, un livre finance le suivant, enfin
donc on
peut
le
faire.
Voilà.
En dehors de financement, enfin voilà. Ou d'aide, comme il y a pu avoir ici avec le CNAP. Merci Grégory Chazonski et Tarek Issaoui.
Merci.
Les entretiens d'Offrine seront disponibles à l'écoute prochainement. En attendant, vous pouvez réécouter les archives des entretiens réalisés au Salon en 2022. À bientôt sur Duo Radio.